Patrice Trigano, vous publiez L'amour égorgé aux éditions Maurice Nadeau, livre qui va nous plonger dans cette époque du dadaïsme et du surréalisme à travers un des personnages, presque un des personnages clés de cette époque. Alors, je n'ai pas nommé cette personne, c'est René Crevel, poète, écrivain français, donc né en 1900. Et il n'aura vécu que 35 ans, puisqu'il est mort en 1935 à Paris. Alors, Patrice Trigano, qu'est-ce qui vous a intéressé chez René Crevel?
Eh bien, écoutez, c'est une longue histoire que je vais chercher à vous résumer. Et j'ai croisé l'histoire de René Crevel, cette histoire absolument incroyable, lorsque j'avais 20 ans. J'ai passé une année difficile à cette époque-là, et durant cette période, j'ai eu de la chance dans ma malchance. La chance que j'ai eue, c'est que ça correspondait à un moment où effectivement je faisais des études littéraires, et j'avais eu un professeur absolument extraordinaire qui s'appelait Alfred Simon, qui était un critique dramatique très connu, et qui nous avait initiés à une multitude d'approches littéraires. J'avais connaissance du surréalisme, et durant cette période difficile pour moi, je m'étais raccroché je m'étais peut-être un petit peu identifié aussi à l'aventure douloureuse d'un certain nombre d'écrivains qui avaient participé à cette aventure surréaliste, et en particulier Antonin Artaud, sur qui j'ai écrit plus tard un livre et sur qui j'ai fait une pièce de théâtre qui s'appelle Artaud Passion, qui a été montée à deux reprises au Festival d'Avignon. Et j'avais aussi rencontré donc l'œuvre de René Crevel à travers une phrase que m'avait indiqué ce professeur. Cette phrase, je m'en souviens aujourd'hui, c'était « La mosaïque des simulacres ne tient pas ». Vous voyez, c'est une chose un peu mystérieuse, cette phrase, un peu surréaliste, mais qui veut dire beaucoup, beaucoup de choses quand on comprend qu'elle était le fait d'un jeune poète en grande souffrance physique et en grande souffrance mentale, psychique, si j'ose dire. Il y a quelques années, 3-4 ans, j'ai décidé d'en faire un livre. Une fois que j'étais bien, bien installé dans la vie du personnage, j'ai laissé faire mon imagination afin que ce ne soit pas une biographie, que ça soit plutôt un roman. On appelle ça une biographie romancée, mais enfin, c'est plutôt un roman. C'est un roman qui part d'éléments factuels pour véritablement donner libre cours à l'imagination. C'est-à-dire, ce que j'ai cherché à retrouver, c'est ce qu'aurait pu dire dans certaines situations René Crevel, est-ce qu'il aurait pu faire, est-ce qu'il aurait pu vivre, est-ce qu'il aurait pu subir.
Alors, écriture d'un roman, effectivement, mais ce roman, il est quand même bien plongé, la plume est bien plongée dans une époque et dans des personnages forts, hein, que ce soit Breton, Aragon, Éluard, Dali, etc., Cocteau aussi. Tous ces personnages ont joué un rôle assez étonnant pour évacuer, je dirais, le XVIIIe siècle, pour vivre dans le XXe siècle.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la description que je fais de cette période, c'est la description de la vie d'un certain nombre de jeunes gens qui, comme beaucoup à l'époque, avaient été effroyablement déçus par les valeurs de la société bourgeoise, les valeurs de la société judéo-chrétienne qui sous-tendait la société de l'époque, et ils considéraient que toutes ces valeurs avaient mené finalement l'humanité à un véritable carnage, à une véritable catastrophe, au véritable charnier de la guerre de 14. Donc ils étaient très très désemparés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et ils comprenaient qu'il fallait véritablement construire quelque chose de nouveau en mettant un grand coup de pied dans la fourmilière. Ça a été une grande, grande, grande période de contestation qui, sur le plan artistique, s'est traduit dans un premier temps par l'existence d'un mouvement contestataire et révolutionnaire qui s'appelait le mouvement Dada, D-A-D-A. À l'initiative de Tristan Tzara. Le mouvement avait été créé au cabaret Voltaire à à Zurich en 1917, si je ne me trompe pas. Et Tristan Tzara était revenu en France et il avait importé donc son mouvement. Et un certain nombre de jeunes poètes français étaient entrés avec lui à l'intérieur de ce mouvement. Des gens comme André Breton, Louis Aragon, Ribemont de Saigne, Philippe Soupeau, Paul Éluard, tous ces gens-là faisaient partie du groupe Dada. Naturellement, il y a tout de suite eu une sorte de conflit de pouvoir au sein de ce mouvement Dada entre les deux personnalités dominantes, qui était la personnalité de Tristan Tzara, qui était un homme pour qui l'humour était la base de toute forme de contestation, de revendication, et André Breton, qui lui ne voyait pas exactement les choses de cette façon, qui était beaucoup plus sérieux peut-être. Il reprochait à Tristan Tzara, finalement, de mener des actions de contestation qui, au bout du compte, n'aboutissaient pas à grand-chose. Alors, au bout d'un certain temps, Breton a fait en quelque sorte, comme on dirait aujourd'hui, dissidence par rapport à ce mouvement. Il a monté son propre mouvement, qui s'est appelé le mouvement surréaliste, qui était aussi un grand mouvement de jeunesse poétique et artistique révoltée, mais qui avait invité à la table de cette révolte l'imagination, le rêve, le désir et l'amour.
Patrice Trigano, revenons à René Crevel. René Crevel démarre avec quand même un handicap dans la vie, puisque à 14 ans, sa maman ne trouve pas d'autre chose que de le réveiller le matin pour lui montrer son père pendu à une poutre du salon.
C'est un choc terrible, d'autant que au moment où sa mère donc le prend par le bras en lui plantant les ongles dans la chair de son bras, comme ça elle le tire pour l'amener vers le salon, elle donne un coup de pied violent dans la porte du salon et elle lui dit: Regarde, et son père est effectivement pendu à la poutre centrale du salon. Et là, c'est là que les choses, c'est là que l'horreur commence, si j'ose dire, ou en tout cas se décuple, puisqu'elle lui dit: Regarde, en tendant la main vers le pendu, regarde cette ordure, regarde ce salaud, regarde ce bon à rien, sous-entendant presque, regarde ce que tu as fait, comme si ce pauvre enfant de 14 ans était pour quelque chose dans le suicide de son père. Alors qu'effectivement, son père s'était suicidé parce que sa mère était tellement horrible qu'il n'avait pas trouvé d'autre solution que cela.
C'est pas un élève, c'est un élève qui s'ennuie. C'est pas un mauvais élève, mais c'est un élève qui s'ennuie.
C'est un élève qui s'ennuie parce que, à l'époque, il est à la Sorbonne, et à la Sorbonne, il y a beaucoup de professeurs qui sont un petit peu des vieilles barbes, et c'est pas ça dont il a envie. Lui, il a envie de quelque chose de nouveau. Il a envie de régénérer le langage de la littérature, de la poésie. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette idée qui consiste à penser que on peut changer le monde en commençant par faire évoluer le langage, en bousculant le langage. René Crevel a réinventé une façon de faire un récit, d'écrire un roman. Ces livres sont principalement des romans, mais ce ne sont pas des romans comme on a l'habitude de les lire, comme on a l'habitude de les connaître. Ce sont des romans dans lesquels la forme est tout à fait nouvelle.
Alors il se cherche, il cherche sa personnalité, il est à la fois homosexuel et hétérosexuel, il cherche peut-être un mentor, il va le trouver dans la personne de Breton, certainement, c'est sans doute peut-être la personne la plus importante qui a été dans sa vie, même s'il y a eu aussi à un moment des dissonances, et puis la maladie aussi qui l'a attrapé très très vite, la tuberculose.
Alors effectivement, il avait besoin d'un père, il n'avait plus de papa. Bon. Et lorsqu'il a rencontré André Breton, qui était son aîné de quelques années seulement, 5 ou 6 ans, André Breton avait une personnalité charismatique qui en imposait. Il en imposait parce qu'il était un très bel homme. Il en imposait par sa façon de parler. La langue qu'il parlait, c'était purement et simplement la langue de Bossuet. Vous voyez, c'était un homme qui avait une facilité d'écriture et de parole absolument extraordinaire, une maîtrise aussi du vocabulaire absolument fantastique. Et puis, il avait des idées qui étaient très, très intéressantes et très, très enrichissantes. Donc, René Crevel en avait fait en quelque sorte son père spirituel. Mais effectivement, René Crevel a eu une grande déception, parce que ce père spirituel qui passait sa vie effectivement à considérer qu'il était important de libérer la société, de libérer la pensée, de lutter contre toute forme de censure, de lutter contre l'intolérance, cet homme donc qui était a priori extrêmement tolérant, était au sein du mouvement qu'il avait créé d'une intolérance absolument incroyable, presque dictatoriale. Il sanctionnait dès que les propos d'un membre du groupe surréaliste ne lui plaisaient pas, il était sévèrement sanctionné. Dès qu'il commettait une faute, ou en tout cas commettait une faute aux yeux d'André Breton, il était exclu du mouvement surréaliste, et cette exclusion prenait l'allure d'une excommunication. C'était assorti d'une véritable cérémonie. Enfin bon, c'était très, très spectaculaire. René Crevel a été très déçu par André Breton parce qu'il l'admirait au plus haut point. Et puis un jour, quelqu'un lui a dit: Mais tu sais, cet homme que tu admires tant là, bon, toi qui es homosexuel, tu devrais peut-être un petit peu te méfier parce qu'il est homophobe. Alors, Crevel, effectivement, avait bien senti par moments que son homosexualité agaçait Breton. Enfin, il n'imaginait pas quand même qu'il puisse être homophobe. Vous voyez, l'homme était en pleine contradiction avec lui-même, là, dans son homophobie, dans son intolérance. Alors, bon, il a été très, très déçu de ça, mais enfin, finalement, il est quand même resté très longtemps au groupe surréaliste, et il a quand même surmonté, je veux dire, cette déception. Et il considérait que si un jour Breton ne l'aimait plus, il mourrait. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui est arrivé à la fin de sa vie. Mais enfin, on ne va pas anticiper sur la chose. Vous m'avez parlé de la maladie de Crevel. Oui, ça, il faut en parler. Crevel était atteint de tuberculose. Et à l'époque, la tuberculose était une maladie terrible, puisqu'on ne savait pas la guérir. Crevel passait des séjours dans les sanatoriums à Davos, où d'ailleurs il rencontrait un ami qui était lui aussi tuberculeux, qui était Paul Éluard, et c'était une grande chance pour lui qu'il se retrouve avec Paul Éluard, parce qu'au moins il pouvait, dans ce contexte qui ressemblait souvent, hélas, à un mouroir, pouvait parler de poésie, il pouvait parler littérature, il pouvait parler du rêve, de l'imaginaire, du désir, de l'amour, toutes ces valeurs qui sous-tendent l'esprit du surréalisme. Et donc la vie de Crevel a été entrecoupée de séjours au sanatorium, et puis dès qu'il allait mieux, on l'autorisait à revenir à Paris, ou alors pour compenser finalement son mal de vivre et pour compenser son état extrêmement difficile sur le plan de la santé, il cherchait alors pour le coup à multiplier les excès pour compenser un petit peu tout ça. Donc il vivait à 100 à l'heure et faisait usage de tous les excès possibles dans le domaine de la drogue, de l'amour, de l'alcool, du sexe. Enfin, il a véritablement brûlé sa vie, si j'ose dire. En même temps, j'ai cherché dans mon roman à faire ressortir tout cela.
Est-ce qu'il s'est senti heureux à un moment dans l'écriture, dans des relations particulières avec certaines personnes? Vous parliez d'Éluard, il y a eu Gide également aussi. Est-ce que, je parle pas de Breton parce qu'on en a parlé longuement, est-ce qu'il s'est senti heureux à un moment?
Il s'est senti heureux à plusieurs reprises dans sa vie. D'abord, au sein de ce mouvement surréaliste, il avait une très très grande complicité intellectuelle avec un certain nombre de gens, et en particulier avec Aragon. Aragon était vraiment un grand ami de René Crevel. Bon, j'ai imaginé dans mon roman qu'ils ont eu des rapports intimes, puisque René Crevel était homosexuel, enfin il était bisexuel, enfin bon, homosexuel, et on nous fait croire dans les biographies que Aragon était devenu homosexuel au moment de la disparition d'Elsa. Bon, c'est difficile à le croire, je crois que on est homosexuel ou on n'est pas homosexuel. Donc, si Aragon était homosexuel, compte tenu des rapports extrêmement proches qu'il avait avec Crevel, je crois qu'il est très très difficile d'imaginer qu'il n'ait pas eu de rapport. Donc, ces rapports, je les ai imaginés, je les ai inclus dans mon roman en étant intimement convaincu de l'existence de cela. Alors, j'en reviens aux gens qu'il a aimés. On parlait tout à l'heure d'Éluard, on parlait bon de Proton malgré la petite ombre au tableau, mais il y a d'autres gens avec qui il a été très lié. En particulier, il a été lié avec Salvador Dali, pour qui il a eu une très très grande admiration. Il a été très lié avec Gala, qui avait été dans un premier temps la femme d'Éluard et qui après ça est devenue la femme de Dali. Il a vécu avec eux à Cadaquès, dans leur maison de Port-Liggat. Et puis, il a eu une autre grande amitié avec Alberto Giacometti, qui a été peut-être le dernier grand ami qu'il a eu dans sa vie. Il y avait une très très grande complicité intellectuelle entre deux, et j'ai imaginé un dialogue dans lequel ils parlent l'un et l'autre de l'art. Giacometti parle de la sculpture et Crevel parle de l'écriture, et finalement ils en arrivent l'un et l'autre à dire que c'est un constat d'impuissance, mais qui ressemble à l'impuissance sexuelle dont était atteint, dont était victime Giacometti. Et c'est un dialogue qui, je crois, est assez important parce qu'il nous éclaire sur la nature des moteurs de la création, des moteurs alchimiques de la création, en quelque sorte. Et puis, il a eu deux grands moments de bonheur dans sa vie à travers des rapports amoureux. Alors, il y en a un que je décris avec un peintre américain qu'il avait rencontré à Paris, et puis avec une jeune berlinoise qu'il avait rencontrée à l'occasion d'un voyage à Berlin dans les années 30, qu'il a fait venir à Paris, avec qui il a vécu, qui s'appelait Mopsa. Alors là, c'était vraiment une très très grande complicité, parce que c'était une complicité intellectuelle doublée d'une véritable complicité amoureuse, d'une complicité sexuelle, et j'ai cherché à décrire tout ça en ayant exploré très longuement leur correspondance pour être sûr que je ne trahissais pas et que les mots que j'employais étaient bien les mots qu'ils auraient dit ou qu'ils auraient écrit.
Que lire de Crevel pour le découvrir ou le redécouvrir?
Il y a un certain nombre de livres. Moi, je dois vous dire que le premier livre que j'ai lu de Crevel, c'est un livre qui m'a bouleversé. Ça s'appelle Mon corps et moi. C'est un livre dans lequel il raconte, avec beaucoup beaucoup d'humour et d'ironie, les difficultés auxquelles il est confronté à travers la maladie. Bon, alors, il raconte tout ça en disant, j'ai des hippocampes qui montent et qui descendent dans les poumons, etc. Enfin bon, tout ça est plein d'humour, d'ironie, mais c'est très très beau, très très beau. Mon corps et moi. C'est un livre que je conseille tout particulièrement.
Alors, on lira déjà le vôtre, Patrice Trigano, L'amour égorgé. Pourquoi l'amour égorgé, au fait?
Alors, l'amour égorgé, parce que ça fait référence à une sculpture de Giacometti qui s'appelle La femme égorgée. Alors, dans un dialogue que j'ai inventé entre Crevel et Giacometti, qui se retrouve à un endroit qui était assez couru dans les années 30, qui s'appelait le Sphinx. Le Sphinx, c'était un bordel à l'époque des bordels à Paris, un bordel très chic dans lequel se croisaient des gens du monde, des artistes, des étrangers de passage à Paris, etc. Enfin bon, c'est un endroit, bon, j'ai fait des recherches là-dessus, l'endroit était absolument somptueux sur le plan décoration, etc. Et bon, il y avait une ambiance assez étonnante dans tout ça qui marchait avec l'esprit de la liberté sexuelle qui était très très grande. à l'époque. C'était les amours collectifs, c'était les amours extrêmement libérés, c'était les grandes rigolades de copains entre copains et copines, etc. Ça, c'était une grande libération, si j'ose dire, sexuelle. Ça faisait partie du programme de libération prôné par le surréalisme. Mais enfin, il ne faut pas confondre la liberté et le côté délibérément licencieux des bordels. C'est pas la même chose. Mais il se trouve que Giacometti avait une grande passion pour les bordels. C'est un endroit dans lequel il se sentait bien. Donc il y invitait ses copains et il avait invité René Crevel. Et c'est dans ce cadre-là qu'un jour, donc, j'ai imaginé qu'ils ont eu une discussion sur l'art, sur la création artistique. Et dans cette discussion, René Crevel a dit à un moment donné à Giacometti, tu sais, il y a une de tes sculptures là dont le titre me revient toujours, La femme égorgée, et je me demande bien pourquoi. Et puis je me suis rendu compte que cette femme égorgée, finalement, a des épines. C'est une femme qui pique, c'est une femme qui fait mal. Et finalement, j'ai compris que je reviens toujours à ça parce que j'y retrouve l'esprit de ma mère, qui était une femme qui, effectivement, avait un dard qui me faisait mal, qui faisait mal à tout son entourage, qui était néfaste. Et finalement, pour elle, qui prétendait que j'étais l'amour de sa vie, son fils chéri, elle s'est comportée avec moi comme si j'étais son amour égorgé. D'où le titre de ce livre, L'amour égorgé.
Merci Patrice Trigano de nous avoir fait découvrir René Crevel, redécouvrir aussi peut-être, et puis cette époque et ces personnages hauts en couleur qui jalonnent votre roman sur cette époque, à la fois d'époque et de mouvement dada et surréaliste, quel qu'il soit. De toute façon, je pense que j'ai cru lire quelque part qu'un ami de Crevel a dit qu'il se suicidera parce qu'il avait peur de la démence, mais peut-être qu'il pensait que c'était le monde qui était dément.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on voit à la fin de mon livre, parce qu'on le voit quelque part devenir presque fou, et c'est parce qu'il ne veut pas tomber dans la folie qu'il finit par se suicider. J'ai cherché effectivement, sur le plan littéraire, à trouver les bons mots, le bon rythme, les bonnes phrases pour montrer l'avenue dans cette espèce de folie qui va le monter, qui va l'amener, qui va le pousser au suicide en quelques minutes.
Oui, et cette épitaphe qu'il se met lui-même est très très surréaliste.
Merci de votre intérêt pour ce livre et pour le surréalisme.
Merci beaucoup Patrice Trigano. Donc je rappelle le titre de ce livre, L'amour égorgé, et c'est publié aux éditions Maurice Nadeau. Et ben voilà,
Eh bien, je vous remercie.
je vais trier dans tout ça.
Voilà. Est-ce qu'on pourrait
Il y a de quoi
avoir
faire.
un, je sais pas, comment ça s'appelle, un PDF ou je sais pas.
MP3 éventuellement, oui.
Oui, c'est ça,
Oui,
j'y
oui.
connais pas grand-chose,
Mais
je veux
oui,
dire,
non, non.
vraiment. Électronique.
Je l'enverrai à Jules, ou est-ce que...
Oui, si vous
Oui, hein?
voulez, aux éditions Nado, si vous pouvez aussi. Oui, très bien.
D'accord.
Parfait.
D'accord. Ouais, bah, de toute façon, je pense que Jules ou Gilles font bien
Oui, voilà, vous l'envoyez à. Oui, à
l'ensemble.
Gilles Paris,
Moi,
il le
oui,
transmettra.
voilà. Moi,
Très
je leur
bien.
envoie. Donc, ça passera sur la web radio, sur deux web radios. Ça passera, je leur donnerai aussi les jours et les horaires de passage. Je vais le mettre, moi, j'ai un blog qui tourne, donc je vais le mettre assez rapidement sur le blog. Et puis, je fais l'information via les réseaux sociaux, comme on dit aujourd'hui. Et puis après, bah, voilà, c'est faire tourner un maximum pour que les gens connaissent.
Très bien. Merci, à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup monsieur, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.